En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et merci à vous tous qui nous écoutez pour ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio, la radio en FM 98.00, web radio, DAB+, et sur notre appli. Une émission à retrouver bien sûr en podcast sur idfm98.fr. Changement climatique, tiers-lieu, aujourd'hui vendredi 12 mai, découvrons comment transition écologique et démocratique sont étroitement liées pour construire un nouveau projet de société valorisant un monde de transformation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Chabanel. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Conseiller municipal, adjoint de Madame Scollan, maire de Deuil-la-Barre, délégué à la transition écologique et aux travaux, vice-président du syndicat Émeraude. Vous êtes avec nous ce matin pour présenter un événement intitulé « Comment nos villes s'adaptent au changement climatique » et qui aura lieu demain samedi 13 mai à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre.
Tout à fait. Effectivement, nous recevons nos villes jumelées.
Oui.
Nous avons quatre, mais trois qui seront présentes. Une ville, Niederösbach, qui est une ville allemande, qui est maintenant incorporée dans Francfort. Vax, Hongrie, et puis Lourinhã, le dernier en date, au Portugal.
Voilà. Très bien, mais nous parlons de ça tout à l'heure, monsieur Chabanel. Merci beaucoup. À vos côtés, Alexandre Debussy, curé des paroisses d'Anguin, Saint-Gratien et Orgemont sur Argenteuil. Bonjour mon père.
Bonjour.
Je vous remercie pour votre présence à notre antenne. Une présence car vous êtes l'initiateur d'un tiers-lieu, Saint-Paul-des-Nations, dans le quartier des Raguenais à Saint-Gratien. Un tiers-lieu en cours de création, actuellement hébergé à Anguin au presbytère de la paroisse. Vous nous expliquerez ce qu'est un tiers-lieu. Quelle est l'origine de celui de Saint-Paul-des-Nations, ses objectifs sans perdre de vue son financement pour la réalisation finale?
Merci.
Et à vos côtés, Angélique Godet. Bonjour Angélique.
Bonjour.
On ne se quitte plus.
Voilà, c'est ça.
Fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une ESS, entreprise sociale et solidaire, qui fabrique des produits cosmétiques à base d'eau thermale d'Anguin. Avec nous dans cette émission, parce que directement concernée par la création de ce tiers-lieu, Saint-Paul-des-Nations, ce qui a favorisé d'ailleurs cette rencontre entre le père Alexandre Debussy et IDFM Radio. Et bien sûr, nous développerons ensemble vos arguments. Bienvenue à tous les trois et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio. Avant de vous donner la parole, comme régulièrement le vendredi, nous avons rendez-vous avec notre expert en géopolitique, chercheur et conférencier Gérard Vespierre, auteur de Décryptons le monde, notre chronique. Une chronique pour tenter de décrypter quelques dernières actualités internationales. Bonjour Gérard.
Ne quittez pas. Votre correspondant va vous...
Voilà. Bon. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Ah, on a eu peur d'avoir la messagerie, Gérard.
Merci. Non. J'étais là.
Merci d'être au rendez-vous. Alors Gérard, ensemble, nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer la Turquie, y compris les élections qui vont se dérouler le 14 mai, dans à peine 48 heures. Le président Erdogan y joue sans doute l'épreuve politique la plus difficile de sa carrière. Vous avez donc souhaité faire un nouveau point sur ce sujet. Et d'abord, quels sont vos derniers pronostics ?
Écoutez, mes derniers pronostics sont comme les premiers, à savoir que la situation est plus que difficile. Donc les derniers sondages donnent le président Erdogan sortant donc à 43%. Voyez-vous, donc c'est une situation quand même très difficile, et donc son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, a 49%. Et donc il y a en plus un changement important, c'est qu'il y a juste 48 heures, un opposant également à Erdogan, qui était candidat avec un petit score, donc de 4% seulement, a annoncé son retrait. Donc il est fort possible que plus de la moitié de ses voix aillent donc à l'opposant d'Erdogan. Donc il n'est pas impossible que là, effectivement, on ait une élection au premier tour. Donc voilà la situation la plus récente. Il faut donc effectivement voir que la situation économique a joué contre Erdogan, mais c'est lui qui en est entièrement responsable. Donc la situation politique lui est défavorable, parce que toutes les oppositions sont réunies sur pratiquement la candidature de son opposant. Il y a effectivement les conséquences du tremblement de terre qui quand même ont mis en lumière la mauvaise gestion administrative, le non-respect des normes, etc. Effectivement, un certain nombre de décisions qui ont été prises peut-être en échange de valises de billets, n'est-ce pas ? Donc voilà, il y a cette situation très très difficile. Finalement aussi, son état de santé, il est obligé de s'interrompre quelques jours sa campagne. On voit qu'il est amaigri, donc c'est une situation vraiment très très difficile. In fine, on se rend compte que, la situation internationale aussi n'est pas en sa faveur. L'Europe est très silencieuse sur cette élection. Personne n'en parle. Les États-Unis non plus. Et je pense que tout le monde prie en silence pour qu'il ne soit pas le vainqueur. Et le seul soutien qu'il ait obtenu, c'est le soutien Vladimir Poutine, ce qui est quand même pas un soutien exceptionnel dans la situation que l'on a actuellement en Europe. Donc le rayonnement international de la Turquie est en jeu, et il faut attendre un changement.
Donc, voulez-vous dire par là que les pays occidentaux souhaitent ou souhaiteraient son départ ?
Oui, je ne veux pas jouer le silence comme les pays occidentaux, mais si c'était un tel cas, effectivement, ce serait un silence d'acquiescement de ma part. Oui, je pense qu'il y a, de la part des pays occidentaux, effectivement, un souhait de changement en Turquie, parce que Erdogan, après quelques années de pouvoir, a quand même changé considérablement, fait évoluer sa position. Il est venu avec des choix idéologiques très très marqués. De ce fait, il a pratiqué une politique très volontariste, c'est le moins qu'on puisse dire, en évitant de respecter les pouvoirs et la séparation des pouvoirs, en particulier donc la justice. Donc il a pris la main sur la justice, et on l'a bien vu lors de la répression du putsch de 2016. Donc il a malmené ses adversaires politiques. Son adversaire numéro un n'est pas présent à l'élection. Il s'est arrangé pour le faire mettre en prison. Donc voilà, il y a un non-respect de la séparation du pouvoir, un pouvoir absolu de sa part, et donc je pense que ça convient absolument pas, bien sûr, au monde occidental, à l'Europe et aux États-Unis. Il y a eu les tensions qu'on connaît tous entre l'Europe et Ankara sur les immigrés. Il y a eu les incartations stade de la politique turque vis-à-vis de l'OTAN. Il y a eu à un moment une décision d'acheter du matériel militaire russe, des systèmes donc de défense anti-aérienne, les célèbres S-400. Donc voilà, c'était quand même une décision abracadabrantesque, si je puis dire. Et donc cette attitude, comme je le disais tout à l'heure, idéologique qui a éloigné la Turquie de la conception de la laïcité mise en place il y a plus de pratiquement un siècle par Kemal Atatürk. Donc la rupture de la laïcité de l'État.
Oui, Gérard, vous venez nous décliner toutes les oppositions qui font que Erdogan ne pourrait pas être élu, mais quels sont en revanche les atouts de son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu?
Il est vraiment l'opposé d'Erdogan, c'est vraiment l'anti-Erdogan, et c'est de ce point de vue-là, donc dans une situation après 20 ans de pouvoir, il y a une très grande usure. Donc Erdogan a été dans l'affrontement, il a mené des opérations militaires en Syrie, il a soutenu l'Azerbaïdjan, il se bat contre les Kurdes, enfin donc c'est un homme de combat, alors que donc son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu est un homme de consensus, un homme d'apaisement. Erdogan a très mal géré l'économie de son pays, il y a 50% d'inflation. Or, son adversaire est un gestionnaire, il a eu à gérer donc la sécurité sociale turque, voyez-vous, donc on est dans la gestion profonde et réelle, et il a une image, même un visage, qui rappelle un peu celui de Gandhi, donc un homme de sagesse. Donc, in fine, la chute d'Erdogan serait le potentiel début de la chute progressive des pouvoirs autoritaires. Après, effectivement, le potentiel départ d'Erdogan, on voit ce qui se passe à Téhéran depuis des mois et des années même, mais là, il y aura forcément un jour une fin de pouvoir à Téhéran, et puis, tout au bout de la ligne, il y a Moscou. Donc, il y a aussi... Donc l'usure humaine, Erdogan a 70 ans, Khamenei a 85 ans, Poutine a 70 ans, donc voilà, on arrive à des fins de parcours.
Très bien. Bon, de toute façon, nous n'avons plus beaucoup à attendre, puisque, comme vous venez de l'expliquer, le départ d'Erdogan sera à la fois un tournant pour la Turquie et les relations avec les pays occidentaux. On verra bien si vos pronostics sont les bons, Gérard. Gérard, je vous propose maintenant de nous intéresser une nouvelle fois à l'Ukraine, une situation géopolitique et militaire qui attire tous les regards. On nous annonce depuis plusieurs mois une offensive imminente de l'armée ukrainienne, à tel point qu'on se demande où va être l'effet de surprise. Quelle est votre analyse à ce sujet? Surtout que je crois que ce matin aussi, Zelensky a dit qu'elle n'était pas du tout d'actualité, cette offensive.
Oui, alors ça, je crois que la règle numéro un de l'art militaire, c'est la surprise. Donc, ils vont pas, l'Ukraine ne veut pas annoncer une attaque, mais il y a besoin effectivement d'un changement significatif de la situation militaire pour que l'Ukraine puisse avoir une carte diplomatique. Il y a un double jeu. Donc, faire changer la situation militaire pour avoir une carte diplomatique, alors que la situation militaire russe n'est pas favorable, mais ils sont sur le plan diplomatique favorable parce que ils sont occupants. Donc l'Ukraine a reçu tous les matériels possibles pour effectivement mener une offensive importante, des matériels de déminage, donc pour affronter la structure de défense russe. Ils ont des centaines de chars lourds et des chars légers français. Ils ont reçu, ce dont on parle très très peu, pratiquement un millier de véhicules blindés de transport de troupes, donc des véhicules qui puissent transporter 8 à 10 hommes en armes, donc une force de pénétration après les chars, des véhicules de logistique aussi, de dépannage, de ravitaillement en carburant, donc voilà, pour accompagner un mouvement bien sûr important d'une force mécanisée, et puis ils ont tous les stocks de matériel, donc de frappe, ils ont trois fois plus de canons César qu'il y a un an, ils ont trois fois plus aussi de ces célèbres systèmes HIMARS américains de précision de frappe à 60-80 km, donc le dispositif est prêt, et donc pour mener à la négociation in fine après avoir repris une partie de leur territoire.
Très bien. Gérard, je voudrais, juste avant qu'on se quitte, est-ce que il a été beaucoup question du chef de l'armée Wagner qui dit vouloir lâcher Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, là, il me faudrait beaucoup de temps pour parler de
ouais. Non, mais est-ce que c'est une réalité? C'est un piège? Voilà.
Il n'y a pas forcément de ligne très très claire. Il y a deux hypothèses. Ou bien Prigogine est un homme créé entièrement par Poutine. Alors, ou bien il joue un jeu qui favorise la sortie de l'ombre, si je puis dire, des opposants à Poutine. Et ça peut être très intéressant pour le pouvoir. Ou bien, puisqu'il est arrivé pratiquement en haut de la pyramide du pouvoir, eh bien maintenant il se prend pour le vice-roi. Voilà. Donc, ou bien il est un anti-Poutine potentiel, ou bien il joue le jeu de celui qui l'a mis en place.
Oui, très bien. Merci Gérard pour ces deux interventions, comme à votre habitude, argumentée, rationnelle. L'Europe et notre économie sont en effet impliquées dans ce difficile combat. Souhaitons qu'un dénouement possible soit en effet proche. Je rappelle qu'il est possible de retrouver gratuitement tous vos écrits et analyses sur votre site www.lemondedécrypté. Je vous dis à la prochaine fois, Gérard.
Merci, bonne journée et bonne émission avec vos invités.
Bonne journée aussi, merci.
Au revoir.
Au revoir. Nous marquons une pause et on se retrouve juste après. Une courte pause.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Jupe lissée, queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby.
I know you're gonna like it if you give it a chance now.
Come on, baby, do the commotion.
On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me, sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, 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 yeah.
À quoi ça va me servir d'aller me faire couper? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. J'lui ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around.
Laurent Voulzy sur EDFM Radio, on écoutera plus longuement sa chanson une autre fois. C'est l'économie en direct sur EDFM Radio et ce matin, que ce soit à l'échelle individuelle ou globale, le maître mot aujourd'hui semble être la transition sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi nous nous y intéressons dans cette émission avec à mes côtés Alain Chabanel, conseiller municipal, adjoint de Madame Scollan, maire de Deuil-la-Barre, délégué à la transition écologique et aux travaux et vice-président de Émeraude. Donc avec nous ce matin pour présenter un événement qui se tiendra demain samedi 13 mai à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre avec pour thème « Comment nos villes s'adaptent au changement climatique ». Alexandre Debussy, curé des paroisses d'Anguin, Saint-Gratien et Orgemont sur Argenteuil, initiateur d'un tiers-lieu Saint-Paul-des-Nations dans le quartier des Raguenais à Saint-Gratien. Angélique Godet, fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une ESS, entreprise sociale et solidaire, qui fabrique des produits cosmétiques à base d'eau thermale d'Anguin. Et sans plus tarder, je me tourne vers vous, Alain Chabanel. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour venir à ce micro. Avant d'aborder le sujet de l'événement, je vous laisse vous présenter.
Oui, je suis donc Alain Chabanel, je suis maire adjoint donc à l'environnement, à la transition écologique et aux travaux à Deuil-la-Barre. Je suis un élu assez, un vieil élu. Dans les deux sens du terme. Effectivement, c'est ce sujet, je le travaille depuis très longtemps, c'est plus de 20 ans. Donc, c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour tout le monde. Bon, maintenant je suis retraité, hein, puisque j'ai bientôt 74 ans, mais je suis quand même très très occupé.
C'est ça, vous êtes très actif dans le domaine. Alors, partage d'expériences autour de collectivités, scientifiques, experts, acteurs économiques et associatifs, les impacts du changement climatique suscitent une vraie mobilisation face aux adaptations nécessaires auxquels les territoires vont devoir faire face. C'est le cas de Deuil-la-Barre qui nous donne rendez-vous demain.
Tout à fait.
Donc, pour un événement plusieurs temps, et je vous laisse nous le présenter.
En fait, nous avons de fréquents échanges avec nos villes jumelées. Donc, une au Portugal, une en Hongrie et une autre en Allemagne, qui est le premier jumelage historique. Et habituellement, ça se passe souvent entre personnes, disons... élus et quelques personnes autour, mais on n'associe pas la population effectivement à ces échanges avec nos villes jumelées. Et cette fois-ci, nous avons décidé de faire un événement avec nos villes jumelées sur un thème que, bien sûr, que nous partageons tous, qui est cette problématique du changement climatique. Mmh. Donc l'idée, c'était de pouvoir échanger nos bonnes pratiques, voir avec nos villes jumelées quelles étaient ce que chacun d'entre nous faisait dans son domaine pour essayer de lutter contre ce changement climatique. Oui. Nous avons construit cette table ronde autour de trois thèmes, qui sont les thèmes principaux sur lesquels les villes ont des certaines capacités d'action. C'est d'abord, bien sûr, la problématique du... on sait que dans les... les principaux éléments qui provoquent ce réchauffement, le chauffage des bâtiments est un élément très important, c'est plus de 30%. Et effectivement, nous avons la main, d'une part, sur nos bâtiments publics. Alors, quand je dis nous avons la main, c'est vite dit, parce que transformer les bâtiments, les isoler, etc., ça coûte extrêmement cher. Et malgré tous les plans successifs que l'État a bien voulu mettre sur la table, vous avez entendu parler de tous ces plans, le dernier c'est le plan vert, eh bien, il reste tout de même à la charge des communes des sommes importantes pour pouvoir transformer nos bâtiments. Et ça, c'est une vraie difficulté, car nous, à Deuil-la-Barre, nous sommes, comme disait un très ancien maire, les finances sont saines mais dépressives. Oui. Non, j'exagère, mais aujourd'hui la situation financière est correcte, mais nous n'avons pas des moyens exponentiels. Donc, effectivement, c'est une difficulté. Puis il y a le deuxième volet qui est celui de la transformation de l'habitat individuel et notamment aussi des constructions nouvelles avec les promoteurs. Alors bien sûr qu'ils sont aujourd'hui soumis à des normes, mais on voudrait passer à une étape supérieure. Donc on est en train d'élaborer d'abord une charte des constructeurs, et ensuite on élaborera une charte environnementale aussi pour la construction. Voilà, ce sont les grands volets.
Oui, ce qui est important de rappeler, c'est que le dérèglement, le réchauffement climatique est dû à une concentration de CO2 dans l'atmosphère,
voilà.
Et c'est ça qui est responsable de ce réchauffement.
Donc,
il faut absolument arriver à lutter contre.
Le chauffage. Ensuite, il y a les mobilités, bien sûr.
Bien sûr.
Essentiellement à terre, les véhicules. Je ne parle pas des avions. On en a parlé tout à l'heure en aparté, mais les avions. Mais là, malheureusement, c'est pas quelque chose sur lequel la ville a une maîtrise. réel. Et puis, effectivement, la problématique aujourd'hui de renaturer nos villes, puisque on sait très bien que nous avons besoin de nature, tous, et pas forcément de voir du béton toute la journée, et qu'il y a un double effet, si vous voulez, l'effet, effectivement, captage de carbone quand on plante des arbres ou d'autres types de plantations, et puis l'effet préservateur, c'est-à-dire à la fois, je pense, aux toitures végétalisées, par exemple, on va en faire sur deux extensions d'écoles qu'on est en train de réaliser, ou alors également des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire reconstituer là où c'est trop minéral, des îlots de fraîcheur.
Alors, sur le déroulement de l'événement, j'ai pu noter que à 15h30, vous allez avoir une ouverture officielle par Jean Jouzel,
voilà.
Climatologue et co-prix Nobel de la paix.
Un vrai expert
tout à fait. Dans le domaine.
Je pense qu'il est aujourd'hui universellement reconnu, connu, oui. Au niveau du GIEC. Et cet homme, d'ailleurs, il est déjà venu à Deuil il y a 3-4 ans. On avait organisé une réunion un peu de ce type-là, mais là, c'est plus important. Il va être en visioconférence puisqu'il est actuellement en Suisse.
Voilà. Très bien, très bien. Et donc
en Bretagne, pardon.
Les villes dont vous nous avez parlé au Portugal, en Hongrie et puis dans l'autre pays.
Il y a le Portugal, la Hongrie et l'Allemagne.
L'Allemagne vont être en visio également. Les gens seront sur place.
Voilà, il y aura un groupe de chaque ville sur place, qui va participer au débat directement.
Alors ensuite, à 16h, vous avez une conférence animée par Sylvain Coutran,
oui.
L'un des experts géomorphologues et glaciologues les plus reconnus de la vallée de Chamonix,
oui.
Toujours sur le thème réchauffement climatique, un impact environnemental, quel avenir pour nos glaciers ? Parce que c'est vrai que on en parle beaucoup des glaciers.
Oui, effectivement, parce que c'est un peu une entrée en matière qui va être faite sur les glaciers, mais c'est un peu l'image de ce réchauffement climatique. On sait très bien les glaciers qui disparaissent peu à peu et qui est une vraie problématique. Et c'est un peu un thermomètre finalement, le glacier, ce qui se passe, mais c'est pas le seul. Mais enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant pour montrer effectivement. On voit assez rapidement sur 30 ans, 40 ans l'évolution de ces glaciers. Et d'ailleurs, donc, ce monsieur a écrit un livre qu'il va dédicacer également demain.
Très bien. Et donc, de 17h à 19h, là, c'est une table ronde donc, qui réunira les élus européens en charge de l'environnement et de la transition écologique, avec la participation d'experts tels que Laurent Guidetti, architecte urbaniste et auteur du Manifeste pour une révolution territoriale. Il y a aussi, je vois, René Longet, expert en développement durable, ancien parlementaire fédéral suisse. Donc, vous avez réussi à réunir... Des gens assez prestigieux.
Voilà, l'idée, c'était quand même d'essayer d'avoir un staff de personnes qui connaissent bien la question et qui apportent leur expertise à notre table ronde. Effectivement, c'était l'idée d'avoir toutes ces interlocuteurs de choix.
Tous ces experts.
Pour essayer d'intéresser, nos concitoyens à cette manifestation.
Vous avez lancé je crois que vous avez lancé aussi des questions vis-à-vis des habitants de Deuil pour qu'ils viennent.
Alors en fait, les gens vont pouvoir poser des questions.
Oui.
On va leur distribuer à l'entrée des fiches
qu'ils
vont pouvoir remplir pour poser leurs questions et il y aura donc
pour avoir un mode interactif
pour chacun des trois items, une petite séance à la fin de questions-réponses. Voilà. Mais plutôt que de laisser les gens parler, si vous voulez, ça sera plus facile d'avoir les questions.
Bien
les regrouper, parce que souvent les questions se regroupent, se collectent, et on va pouvoir répondre à ces questions en direct.
Oui, je pense que les gens préfèrent ce mode,
en plus,
et même les experts.
Ça facilite
ceux qui préfèrent qu'on leur pose des questions.
Voilà. Des fois, les personnes n'ont pas envie de prendre la parole forcément en public, et donc ça facilite le dialogue.
Vous avez une idée du nombre de personnes qui vont être présentes?
Pas d'idée, mais enfin, en espérant qu'on fera le plein.
Oui, on vous le souhaite, bien évidemment.
Bien sûr.
Au niveau des mobilités douces, Deuil-la-Barre, à quel projet?
Alors, nous sommes en train d'établir un réseau de circulation douce. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. On vient de faire une très belle réalisation sur la rue du Château, pour ceux qui connaissent cette rue, qui est une restructuration entière de la voirie, avec une piste cyclable séparée qui va remonter en direction de la gare de la Barre-Ormesson. Le but, c'était d'abord de relier différents points à nos gares, puisque ça, c'est important. Mais c'est vraiment le début d'un réseau qui va se faire. Nous avons également commencé quelques années la réalisation d'une coulée verte, donc qui va avoir une double circulation piétonne et tout ce qui est à roue, cyclistes et autres.
Et sur quel trajet?
Alors en fait c'est un tracé nord-sud,
oui,
dont le but final est de relier la forêt de Montmorency aux rives de Seine à Épinay.
Ah, voilà,
c'est
bien.
Ça le but final.
Ah, oui.
Voilà, parce que les rives de Seine sont très bien aménagées, et donc on peut aller à Paris ou on peut aller ailleurs à partir de ces rives de Seine. Et puis la forêt de Montmorency, bien sûr. Alors, nous avons commencé un petit maillon, on espère faire un deuxième maillon d'ici la fin de l'année. Tout ça c'est long parce qu'il faut acquérir les terrains. On a la chance d'avoir encore une zone naturelle en centre de Deuil qui est une zone entièrement dans la nature et où on se sent complètement dépaysé.
On n'a pas
l'impression d'être à 11 km de Paris lorsque l'on est dans cet endroit. Donc ça c'est aussi un réseau qui va être important parce que très rapidement ensuite on arrive dans une rue qui est très large et qu'on va pouvoir aménager. Et puis ensuite un parc. Voilà. Et tout ça va se mettre en coordination et finalement, dans un certain nombre d'années, on aura une liaison entre le centre-ville et notamment la gare de la Barre-Ormesson, mais pas que. Voilà. Il y a
ça.
Tout un réseau qui se constitue.
Et vous avez déjà eu des retours des habitants de Deuil sur ces projets?
Alors, les gens sont
l'accueil.
Très en attente de
oui,
ça,
oui.
Parce qu'évidemment, faire du vélo ou se déplacer sans sécurité, ben, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Nous avons une grosse difficulté à Deuil, c'est que c'est un ancien village rural, et nous avons des rues où circulaient les charrettes autrefois, et donc pas très large. C'est assez compliqué, mais on va finir par arriver à faire un réseau qui soit cohérent. Et on a également un autre réseau qui va se constituer avec la fermeture du passage à niveau du fameux PN4, l'un des plus dangereux de France, qui va permettre justement de faire les circulations douces qui vont accompagner tout ce réseau de voiries nouvelles qui vont se créer.
Oui, j'avais eu l'occasion de recevoir Madame Scolan au moment de son renouvellement de mandat et elle avait évoqué ce passage à niveau qui, je crois, est réputé l'un des plus dangereux.
Ah, c'est quasiment le plus dangereux de France maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et en centre-ville, quoi. Enfin, quand je dis en centre-ville, pas en centre-ville, mais en ville, quoi.
Oui, en ville.
Donc, c'est pas c'est le même problème qu'à la campagne où on traverse une route.
C'est
là, il y a un passage énorme de plusieurs milliers de voitures par jour, donc c'est compliqué.
Oui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, et je vous en remercie, le problème des avions. Et on comprend que ces bonnes pratiques sont vraiment à mettre en place au plus vite, parce que l'OMS considère que le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui.
Bien sûr.
Et les avions.
Alors, au sujet de l'OMS, justement, je voulais parler de quelque chose dont on parle peu, mais ce sont les indices de référence de bruit auxquels l'aéroport de Paris et l'État se réfèrent, en fait, qui sont au-dessus des préconisations de l'OMS. C'est-à-dire que, il y a une norme qui s'appelle 55 dBN, et l'OMS préconise 45. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire 45 à 55, c'est pas du tout le même effet de bruit que...
Ouais.
Or, là-dessus, l'État, je trouve, prend des mesures qui sont beaucoup trop hautes. Et puis, c'est valable aussi pour le ferroviaire, d'ailleurs. Et on constate, enfin on sait aujourd'hui, après plusieurs études qui ont été faites, que l'impact sur la santé est très important. Il y a le bruit des avions, et plus les émissions de gaz, bien sûr, qui concourent au réchauffement climatique. Et l'effet pour la santé est très important. On a une centaine de médecins qui a signé il y a quelque temps une chronique dans Le Monde pour alerter sur ce danger.
Sur ces problèmes.
Auxquels les franciliens sont confrontés.
Oui, et puis alors au-delà de ça, il y a les vagues de chaleur, il y a les inondations, il y a les infections transmises par l'eau, l'air, l'eau c'est un gros problème, hein. On commence à en parler sérieusement. Il y a aussi la production alimentaire qui peut être perturbée, enfin ça va très très loin.
Tout à fait.
Oui.
Bien sûr, il va falloir qu'on adapte peu à peu les cultures. Alors ça, c'est pas du jour au lendemain, mais qu'on adapte les cultures effectivement au changement climatique. Mais ça, c'est un sujet sur lequel les villes n'ont pas, donc peu de, sauf celles qui sont les villes rurales, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais ouais, globalement,
on voit bien qu'on est dans une période de transition très importante aujourd'hui.
On comprend que cette menace, elle est quand même vraiment présente. Merci Monsieur Chabanel d'être venu nous présenter votre événement pour demain. Je vous en prie.
Ajouter une chose, donc le lendemain de cet événement, nous avons également la fête de la nature à Deuil, que nous faisons tous les ans et qui va donc réunir aussi. Il y aura une partie village environnemental avec les associations environnementales, Greenpeace, etc., SOS Vallée de Montmorency et d'autres qui seront présentes.
Voilà. Vous continuez sur votre lancée d'opérations prestigieuses. Alors, cette fête de la nature, c'est à partir de quelle heure, à quel endroit?
C'est dans le centre-ville, autour de l'église Notre-Dame, et donc c'est de 10h à 18h.
Voilà. Très bien, et donc, je suppose que la circulation va peut-être être...
Ah oui, il y a une partie qui est neutralisée en centre-ville.
Piétonnier.
Il y aura également un circuit comme fait la police municipale d'habitude pour les jeunes, pour apprendre effectivement à faire du vélo avec des petits panneaux qui leur permettent de commencer à comprendre comment se pratique la circulation.
C'est ça, au lieu de nous faire apprendre le code de la route, on nous fait apprendre le code du vélo aujourd'hui.
Ça a eu un grand succès l'an dernier, il y a deux ans aussi. Les parents sont très friands de ça aussi pour leurs enfants.
Bah écoutez, on viendra vous voir à cette fête de la nature.
Merci beaucoup.
Merci Monsieur Chabanel pour cette présentation, puis bravo à la ville de Deuil pour cette réflexion globale sur la nécessaire adaptation des communes aux effets du changement climatique. Je regrette que vous ne puissiez pas rester avec nous, hein, puisque vous avez un rendez-vous pour la suite de l'émission qui viendra certainement prolonger l'échange que nous avons eu ensemble, mais vous pourrez réécouter le podcast.
Tout à fait, absolument.
Merci Monsieur Chabanel.
Bonne journée à vous.
Merci et très bonne, très bel événement pour demain.
Merci.
Merci, au revoir.
Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché. Bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé.
Si jamais t'as peur, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis
écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
M. Pokora sur IDFM Radio. Si vous nous rejoignez ce matin dans l'économie en direct sur IDFM Radio, focus sur les transitions et bonnes pratiques pour co-construire une société plus respectueuse de l'environnement, avec toujours à mes côtés Alexandre de Bussy, curé des paroisses d'Anguin, Saint-Gratien et Orgemont-sur-Argenteuil, initiateur d'un tiers-lieu Saint-Paul-des-Nations dans le quartier des Raguenais à Saint-Gratien, Angélique Godet, fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une entreprise sociale et solidaire qui fabrique des produits cosmétiques à base d'eau thermale d'Anguin, et Alain Chabanel, qui conseiller municipal adjoint de Madame Scollant, maire de Deuil-la-Barre, délégué à la transition écologique aux travaux, avec lequel nous avons échangé sur l'événement qui se tiendra demain, samedi 13 mai, à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre, avec le pour thème « Comment nos villes s'adaptent au changement climatique », mais qui avait un rendez-vous et a dû partir, ne pourra pas rester, enfin, participer au débat qui va suivre. À présent, nous enchaînons avec vous, Père Alexandre de Bussy. Alors, quelques mots sur votre parcours, notamment votre parcours académique qui mérite, je crois, d'être souligné.
Oui, mais ouais, je suis né à Versailles, hein. J'ai grandi dans les Yvelines, et après avoir passé mon bac, hein, et peut-être poussé par la tradition familiale, hein, puisque dans ma famille, pas mon père, mais mes grands-parents, arrière-grands-parents, voilà, étaient tous ont eu tous un parcours militaire assez important. Je suis rentré au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, oui. Donc en prépa lettres, pour préparer le concours de Couette-Quidan, le concours des officiers, hein, de l'armée de terre. J'ai fait deux belles, très belles années où j'ai été très heureux, mais finalement un autre appel a été plus fort, et donc bien j'ai voilà quitté la prépa pour entrer au séminaire, et l'évêque de Versailles à qui je me suis présenté m'a envoyé faire tout mon cursus, toutes mes études à Rome. Donc j'ai eu cette grâce, hein, pendant 8 ans, oui. 9 ans de faire mes études dans cette ville magnifique où j'ai fait de la philosophie, de la théologie, et ensuite je me suis spécialisé sur ces premiers chrétiens, hein, qui ont forgé notre foi chrétienne, qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont écrit en latin, en grec. Donc voilà, j'ai approfondi aussi la connaissance des langues anciennes pour pouvoir étudier,
voir les rouleaux araméens.
Alors, moi, je les aurais vus si j'avais étudié au défait, oui. la Bible, et, oui. Et donc là, je les ai pas vus, hein. Mais j'ai fait de l'hébreu, oui, aussi. Moi, c'était plus vraiment les vieux manuscrits parchemins, ou voilà, qu'on trouve dans les bibliothèques au Vatican ou dans d'autres grandes bibliothèques françaises ou internationales. Et donc voilà, pour coller. Voilà, tous ces textes pour établir des éditions critiques, mais surtout voilà, pour voir quel est le message que ces hommes, et ces femmes aussi d'ailleurs, oui. On oublie de le dire, ont pu donner à l'Église, et comment ils nourrissent encore notre Église. Voilà. Et après avoir été ordonné donc prêtre en 99 à la cathédrale de Versailles, un 29 juin, donc j'ai été prêtre dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, à Sartrouville. J'ai été également professeur donc au séminaire de Versailles, qui est à Château en fait, mais voilà, pour les futurs prêtres du diocèse de Versailles.
Et vous êtes revenu aux sources, donc.
Exactement.
Puisque vous êtes né à Versailles, c'est voilà, formidable.
Exactement. Oui. Et après, je suis parti pendant 6 ans missionnaire au Mali. Donc dans le centre du Mali, dans une petite ville qui s'appelle San, qui est à mi-chemin entre Bamako et Tombouctou, et où je me suis beaucoup occupé de jeunes, mais là aussi de formation, parce qu'à cause de la guerre au Mali, je ne pouvais pas rester seul, isolé, dans cette région qui était pas du tout protégée.
Parce qu'il y a eu de tristes actes.
Voilà, c'est ça, ouais. Avec des djihadistes, hein, et des bandits, hein, qui ont pris tout le nord Mali et qui étaient à 200 kilomètres à peu près de là où j'étais. Donc ensuite, j'ai été aussi beaucoup formateur au grand séminaire de Bamako. Et après cette expérience, donc l'évêque de Versailles m'a demandé si je voulais bien aider le diocèse de Pontoise en étant curé de d'Anguin, Saint-Gratien, et s'est ajouté Orgemont, et qui forme maintenant un groupement paroissial, hein, unique, qu'on appelle Notre-Dame de la Fraternité. Voilà, avec d'autres prêtres, puisque je fais partie d'une équipe, hein, qu'on appelle les fraternités missionnaires des prêtres pour la ville, qui portent ensemble, hein, la mission, et qui vivent aussi une vie communautaire et de prière, une vie fraternelle, et qui essayent aussi d'évangéliser par cette fraternité.
Oui. Mmh. Depuis combien de temps, alors, donc, êtes-vous au diocèse de Pontoise?
Alors, je suis arrivé en 2016. Hein, donc, ça fait un peu plus de 6 ans, bientôt 7 ans, au mois de septembre.
Bon, et vous y plaisez bien?
Très heureux, ouais, d'être ici. Ouais, j'ai été très, très bien accueilli avec vraiment énormément, une communauté vivante, avec énormément de chrétiens qui s'engagent et qui voilà, font grandir, ouais, cette vie de l'Église ici.
Oui, très bien, qui font que vous ne regrettez pas cet appel sacerdotal.
Pas du tout.
Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, Père de Bussy, vous êtes aussi l'initiateur d'un tiers-lieu, Saint-Paul des Nations. Comme je l'ai dit, dans le quartier des Raguenais, un tiers-lieu donc en cours de création, actuellement hébergé à Anguin au presbytère de la paroisse. Je me suis penchée sur les tiers-lieux, bien sûr, en vue de cette émission. J'ai pu voir que ces derniers temps, beaucoup de tiers-lieux poussaient un petit peu comme des champignons partout en France. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez exactement ce qu'est un tiers-lieu.
Oui, c'est vrai, hein, comme vous le dites très justement, hein, il y a énormément de tiers-lieux, hein, qui naissent partout en France. C'est une structure qui est à la mode, hein, mais qui, je pense, a une durée de vie longue. L'objectif, hein, des tiers-lieux, c'est de permettre à des personnes individuelles ou aussi à des personnes collectives, des associations, des entreprises ou d'autres collectifs, de se réunir pour porter autour d'un lieu un projet commun où il y a cet esprit de partage et de convivialité, d'entraide. Et c'est un lieu qui est ni la famille ni le monde du travail. C'est un lieu entre les deux, et dont le but est aussi vraiment de créer, hein, du lien entre les habitants d'un même quartier ou d'une même ville ou d'un même territoire, vraiment de tisser ce lien social, et ces lieux comme autrefois la place du village, hein, qui permettent, absolument, vraiment une rencontre.
Oui. On parle d'un lieu convivial hybride. Au fond, je pense que c'est la bonne définition.
C'est
aussi.
Ça, ouais.
Et alors, j'ai pu voir que c'était un concept importé des États-Unis. Vous confirmez?
Oui, oui. Alors, je me suis pas trop penché sur toute l'histoire, hein, des tiers-lieux, mais j'en ai entendu parler par de très bons amis, notamment le curé de Montmorency, hein, le père Émeric Dupont, qui a lui aussi lancé un tiers-lieu à côté de la collégiale de Saint-Martin. Et moi, j'ai été conquis, en effet, par ce principe et ce collectif. Voilà, parce que justement, enfin, moi, je suis prêtre d'un Dieu qui crée des liens entre les gens. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le mot religion, hein, traditionnellement,
relié,
relégaré, c'est relié, relié évidemment les hommes et les femmes avec Dieu, mais relié aussi les hommes et les femmes entre elles, entre eux, entre tout. Voilà, toute cette humanité que nous formons. Hein. Donc, je suis très sensible, en effet, à tout ce qui permet la rencontre et la communion.
Ouais. Oui, aller vers l'autre et toute l'altérité. Alors, ce lieu convivial, hein, parce que je ne doute pas que ce sera le cas du tiers-lieu de Saint-Paul-des-Nations, ses objectifs, quels sont-ils ?
Voilà, alors les objectifs, hein, ils sont nombreux. Ouais. En fait, ce tiers-lieu, hein, il est né du fait qu'on avait, hein, donc on a une chapelle,
oui,
qu'on appelle Saint-Paul des Raguenais, au cœur, hein, de la cité, qui a été construite il y a 50 ans. Donc elle a été construite en 1973. Il y a un toit-terrasse. Voyez, et ces toits-terrasses en général, ils vieillissent assez mal, et donc ils commençaient à fuir. Mais c'est des travaux énormes et qui représentent un coût très important. Les finances, hein, de la paroisse, et même du diocèse, voilà, avaient du mal à suivre. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas ouvrir notre bâtiment, créer vraiment un projet qui permette, voilà, de se donner les moyens et les finances aussi de le réaliser. Et c'est vrai que nous, nos bâtiments, bah, ils sont très occupés le week-end, le samedi, le dimanche. Ils sont très occupés aussi, on va dire, le mercredi, où on accueille beaucoup de jeunes, et le soir. Mais sinon, ils sont totalement inutilisé,
oui,
hein, souvent
dans la semaine
au moment où les gens travaillent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a vraiment cette idée de mutualiser un certain nombre de bâtiments plutôt que de construire sans cesse de nouveaux bâtiments. Et donc est née vraiment cette idée du tiers-lieu où l'on puisse partager notre lieu avec d'autres activités et d'autres personnes. Et donc on a un peu quatre axes, hein,
oui,
si vous voulez. C'est l'accueil des jeunes. Voilà, le quartier, hein, des Raguenais, plus largement, hein, notre département, hein, du Val d'Oise est le plus jeune, hein, de France.
Absolument.
On oublie de le dire souvent.
Alors, en tout cas, sur IDFM Radio, nous le disons très souvent parce que je reçois très régulièrement la CCI, Monsieur Pierre Cuchely, qui nous le rappelle sans cesse.
Sans cesse. Voilà.
C'est le plus jeune département.
C'est ça. Et donc, et ce quartier aussi, hein, des Raguenais, avec 50% de la population qui a moins de 30 ans. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir ce lieu pour les jeunes en faisant, par exemple, très concrètement, à tous les mercredis, un centre d'accueil et de loisirs qui va accueillir les enfants, hein, de 8 à 15 ans, mais qui va permettre aussi à des plus grands d'être animateurs et qu'on va former aussi en leur offrant des formations type BAFA ou BAFD, oui, pour vraiment éduquer les jeunes par le jeu, par la culture, par la rencontre. Et donc ce centre d'accueil et de loisirs là sera tenu par une association qui s'appelle MP3, qui est un patronage, hein, en fait, qui existe déjà mais qui pour l'instant se réunit à Saint-Gratien à côté de l'église de Saint-Gratien.
Hein. Oui.
Donc ça c'est le premier axe, c'est les jeunes. Le deuxième axe, hein, c'est les familles. Voilà, les familles, toutes les familles. Voilà, les familles.
C'est ça. Quand vous dites toutes les familles, c'est un lieu qui sera ouvert, qui va favoriser les rencontres entre chrétiens et non chrétiens.
Aussi,
ça qui est important.
Bien sûr, ouais,
hein,
ouais, bien sûr, qui accueille tout le monde,
oui,
ouais,
oui,
sans,
oui,
voilà, sans faire de distinction.
Oui.
Et toutes les familles, voilà, les familles où il y a un père, une mère, famille monoparentale, les familles recomposées, toutes les familles, à travers des activités. Des ateliers de parentalité, donc avec une psychologue, une coach scolaire, une pédiatre qui pourra voilà animer des temps d'échange entre les parents, pouvoir aussi donner, hein, des outils, mais il y aura aussi une formatrice, hein, de la communication non violente, la CNV,
oui,
qui sera présente et qui apprendra ou nous réapprendra ou nous permettra de d'approfondir notre écoute, notre empathie, mais aussi de savoir couper les conflits par une meilleure écoute et par une meilleure prise en compte du point de vue de l'autre. Des tables ouvertes aussi qui seront proposées régulièrement pour accueillir des personnes seules aussi, isolées, âgées ou en fragilité, qui ont besoin de lieux de convivialité. On l'a vu pendant le temps du Covid, combien c'était essentiel de soigner nos relations humaines, parce que celles qui ont été seules ont vécu parfois des drames.
C'était compliqué, oui.
Le troisième axe, c'est vraiment d'accueillir des personnes en fragilité. Donc, il y aura une association qui est partie prenante de ce projet tiers-lieu. C'est l'association Élan. Enguin Loisirs Handicap, qui accueille des personnes autistes, mais qui accueille aussi leurs parents et qui leur propose un certain nombre d'ateliers culturels, sportifs ou autres, et qui fait déjà un parti du tiers-lieu qui est abrité pour l'instant au presbytère d'Enguin, mais qui viendra avec nous sur ce tiers-lieu de Saint-Paul-des-Nations au Raguenay. L'accueil d'Angélique et de son entreprise Cosmétange, une entreprise solidaire et sociale dont vous avez parlé tout à l'heure.
Et la particularité, pardon, je coupe, mais d'accueillir des personnes, de travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi une belle œuvre.
Ouais. Et évidemment, il y aura un quatrième axe. Il y aura toujours une petite chapelle à côté, avec des lieux pour découvrir aussi la Bible, s'initier à ces textes qui marquent, qui est un patrimoine de l'humanité, mais aussi des initiations à la prière silencieuse chrétienne, et évidemment des temps d'échange sur des grandes questions de la vie. Et une chose aussi que je voulais ajouter, c'est que c'est un bâtiment qui veut respecter la rénovation énergétique. On a parlé beaucoup de questions avec Alain Chabanel autour de l'importance de respecter
des bonnes pratiques,
notre climat et de respecter notre maison commune, la terre. Et de fait, notre bâtiment n'était pas du tout isolé, donc ni le plafond, ni les murs, ni le sol, et donc on chauffait en fait l'extérieur.
Oui, c'est ça.
Donc là, on va tout évidemment isoler, mais aussi installer une pompe à chaleur. Notre idée aussi, c'est de pouvoir peut-être accueillir d'autres associations, type par exemple des AMAP ou ce type d'activité qu'on pourrait abriter dans notre tiers-lieu. Oui.
C'est ça, peut-être avoir comme un petit marché de producteurs ou
exactement.
Avec un AMAP. Oui.
C'est ça.
Et tout le lien dont vous parlez se deviendrait naturel. Quoi.
Exactement. Ouais.
Et vous avez pensé dans les travaux aussi à une végétalisation du bâtiment.
Alors, pas une végétalisation du bâtiment, mais on a un parking devant cette chapelle, ce tiers-lieu, Saint-Paul des Nations. Et donc, sur la bordure du parking, on souhaite organiser un petit jardin partagé, mais aussi peut-être installer un composteur qui pourrait être là aussi utilisé par un certain nombre de riverains, de voisins.
S'il y a une AMAP pas loin, donc ça se justifiera amplement. Père de Bussy, avec qui avez-vous monté ce projet ?
Alors, en effet, c'est un gros projet qui est monté par les paroissiens, qui sont très partie prenante de ce projet. On est aidé également un peu par le diocèse de Pontoise, et puis également par une association qui est au niveau de l'Île-de-France, qu'on appelle les Chantiers du Cardinal, qui est une association qui est née déjà il y a un certain temps. au milieu du siècle dernier et qui a aidé en fait à la construction d'un certain nombre de lieux de culte ou de lieux de rassemblement chrétiens dans la région Île-de-France qui ne cessait de grandir hein, au siècle dernier. Elle continue de grandir, hein, mais ça a été de manière assez forte au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, oui, hein, même peut-être déjà un peu avant. Ouais. Donc voilà, ce sont trois entités qui nous aident. Mais vous voyez que c'est un gros chantier. Hein.
Bien sûr. C'est
800 000 euros à peu près. Et donc voilà, on fait un appel largement, non seulement aux paroissiens, mais au-delà, hein, notamment aux associations ou aux entreprises qui vont participer à ce tiers-lieu. Mais voilà aussi un appel au mécénat. Donc on a lancé voilà un appel au mécénat en faisant une petite plaquette là que j'ai sous mes yeux pour favoriser un certain nombre de
c'est ça vous avez lancé une souscription
oui
pour pouvoir recueillir des fonds
c'est ça
je voulais vous parler de la commune de Saint-Gratien a forcément dû donner son aval également pour.
Oui,
pour
bien sûr, on a déposé un permis de travaux hein, oui, à la oui. commune de Saint-Gratien qui a été donc accepté
et qui a accueilli ce projet favorablement.
Bien sûr, oui. Tout ce qui en effet va dans le sens d'un bien vivre ensemble, notamment hein, dans ces quartiers qui sont sensibles.
Oui.
Et toujours bienvenue. Bien ouais, ouais.
Alors ce lancement, cet appel aux dons hein, que vous faites aujourd'hui, vous voudriez réunir quelle somme? Parce que le montant c'est 800 000 euros, le montant des travaux, mais vous êtes à la recherche de quelle somme aujourd'hui?
Ben on est à la recherche de un peu plus de 200 000 euros.
Ouais. Très bien.
Donc par le biais de la souscription et du mécénat d'entreprise qui serait intéressé par aider ce projet.
Donc il y a un lien hein, qui est alors http://don.catholique95.fr Saint-Paul-des-Nations. Mais je pense que si on va sur un moteur de recherche et qu'on tape Saint-Paul-des-Nations, ça suffit pour
Tout à fait. Oui, ou sur le site aussi du groupement paroissial hein, Notre-Dame de la Fraternité, ou également sur le site du diocèse de Pontoise. Il y a également une page Facebook qui a été créée, donc la page Facebook en fait de notre groupement paroissial hein, Notre-Dame la Fraternité, où il y a la possibilité donc de se connecter hein, sur cette page de dons, mais où il y a également un peu le suivi des travaux, donc on voit un certain nombre de photos là des différents artisans qui travaillent à la rénovation de cette chapelle et à la constitution, à la réalisation de ce tiers-lieu.
Très bien. La date de l'ouverture de ce tiers-lieu?
Alors, on espère que tout sera ouvert et disponible à la rentrée, hein, au mois de septembre, mais nous allons faire ensuite une inauguration de ce tiers-lieu en invitant justement à tous les partenaires qui nous auront aidés et en faisant vraiment une présentation hein, de toutes les activités qui vont se développer dans le tiers-lieu. Ce sera le 11 novembre.
11 novembre, très bien. Et est-ce que des entreprises qui pourraient, c'est une idée qui me vient, hein, mais pourraient participer, mais d'une façon plus matérielle que financière, vous acceptez ce genre de...
Bien sûr. Par exemple, participant.
Les artisans qui pourraient.
Oui, tout à fait. En participant peut-être à l'achat des chaises ou des tables ou à la constitution de d'armoires, etc.
Très bien. Bon, écoutez, l'appel est lancé. J'espère qu'il sera entendu.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Père Alexandre Debussy, pour ce partage et puis de nous avoir sensibilisés à ce projet de tiers-lieu. Je propose qu'on fasse une courte pause, Francky, pour ensuite donner la parole à Angélique Godet.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
IDFM Radio, j'étais surprise par la rapidité de la pause. IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin, j'accueille Alexandre Debussy, curé de la paroisse de Saint-Gratien. J'ai oublié, dans Enghien et Orgemont. Nous avons reçu en premier Monsieur Chabanel, conseiller municipal adjoint de Madame Scollan, maire de Deuil-la-Barre. Et maintenant, je donne la parole à vous, Angélique Godet, donc fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une entreprise artisanale et bio qui va être hébergée dans ce tiers-lieu de Saint-Paul-des-Nations. Et je rappelle que vous embauchez des personnes en situation de handicap. Angélique, votre rencontre avec le père Alexandre Debussy, racontez-nous.
Alors, c'est une histoire un peu étonnante. En fait, je cherchais en tant qu'artisan un lieu pour implanter l'entreprise Cosmétange. Et j'ai commencé à entendre parler autour de moi de tiers-lieux et je m'étais dit qu'effectivement, d'intégrer un tiers-lieu serait très intéressant. Donc j'ai fait des recherches internet pour rechercher un lieu proche de mon domicile et j'ai découvert que le 7 à Montmorency était un tiers-lieu mais paroissial. Donc j'ai contacté le père Alexandre Debussy pour demander si éventuellement un tiers-lieu pourrait être monté sur la paroisse d'Enghien, Saint-Gratien. Et le père Alexandre m'a dit, écoutez, justement, on cherche des artisans pour occuper ce tiers-lieu.
Une
synchronicité qui était vraiment merveilleuse. Et donc, on a bénéficié vraiment d'un accueil extraordinaire, avec beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. Et donc on peut occuper les lieux à l'heure actuelle au presbytère. Donc les bâtiments sont voués à la démolition dans à peu près janvier 2024.
C'est ça, oui.
Janvier 2024, oui, normalement la démolition sera effective. Et donc on va pouvoir intégrer, je pense, à partir du mois d'octobre, septembre-octobre, le laboratoire qui sera présent sur le site du tiers-lieu Saint-Paul-des-Nations au Raguenay.
Donc du coup, ça va vous éloigner un petit peu quand même de votre domicile.
Oui, effectivement, c'est un éloignement, mais c'est aussi une merveilleuse aventure parce que c'est un quartier de ville prioritaire. C'est aussi l'occasion d'accueillir des stagiaires, d'accueillir des jeunes gens qui n'ont pas forcément de lien direct avec le monde du handicap et de le faire découvrir. De faire découvrir qu'on peut dépasser beaucoup de difficultés dans la vie avec un entourage bienveillant.
C'est vrai.
Et quand je parle de difficultés de la vie, on peut aussi parler effectivement de difficultés scolaires parce que l'environnement familial ne peut pas toujours être aidant dans certaines situations. Donc on peut trouver cet accueil et cette aide. Donc il y aura bien évidemment le patronage avec MP3 qui sera sur place le mercredi. Donc Cosmétange laissera les lieux du bureau justement au patronage et les lundis, mardis, jeudi, vendredi, nous aurons une grande salle bureau et le laboratoire qui a été fait effectivement sur les nécessités de Cosmétange. Donc c'est un lieu certes petit mais très bien étudié.
Qui sera efficace.
Voilà, exactement. On a vraiment optimisé l'espace et on a eu la chance d'avoir l'aide du diocèse, l'écoute de l'architecte, la possibilité de nous exprimer sur nos besoins, les spécificités. Et franchement, c'est juste extraordinaire.
En fait, vous réunissez que des personnes extraordinaires autour de vous, puisqu'avec Éric Plantard l'autre fois, et puis oui, mais ça tient probablement aussi à votre personnalité. Alors, les conditions de votre hébergement, quelles seront-elles financièrement?
Alors, on espère pouvoir redonner effectivement ce qui nous a été offert. Donc, la société Cosmétange s'est engagée à participer à hauteur de 75 000 euros sur le projet du tiers-lieu.
D'accord.
Donc ça va être étalé dans le temps. on ne pourra pas verser la somme directement, mais voilà, on espère pouvoir le tenir. Et justement, pour faire un rappel sur d'autres entreprises qui souhaiteraient apporter par du mécénat, ils peuvent bénéficier d'une réduction fiscale. Donc, ils peuvent participer financièrement au projet Saint-Paul des Nations. La réduction fiscale est de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel et hors taxe de l'entreprise. Donc, tout est bien expliqué dans la plaquette. Sur le lien qui peut être flashé et sur le site donc catholique95.fr/Saint-Paul-des-Nations.
Et les dons vont se transformer en étoiles dans toute l'Église. Ouais.
Bravo, ça va être un beau symbole.
Donc tout à fait. Donc effectivement, si des sociétés, des entreprises souhaitent participer à ce beau projet, qui est un projet vraiment centré sur l'humain, Cosmétange va devenir perma entreprise, comme pour la permaculture en fait, c'est-à-dire avec l'humain au centre, le respect environnemental qui sera également au centre du projet et la juste répartition des gains qui seront effectués. Voilà, c'est un peu le tiers-lieu et aussi répond à ces mêmes exigences.
C'est un mot que j'emploie assez souvent, mais parce que de plus en plus de chefs d'entreprise sont dans cette démarche, on est dans un cercle vertueux.
Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que les objectifs de Cosmétange sont dans un premier temps environnemental. On propose des produits à faible impact environnemental. Et surtout, nous accueillons également des personnes en situation de handicap pour travailler avec nous. Et jamais nous n'aurions pu lancer les embauches des personnes en situation de handicap si nous n'avions pas eu le soutien du diocèse et du tiers-lieu. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de dire merci.
Oui, c'est une façon de renvoyer l'ascenseur, comme on dit familièrement.
De remercier chaleureusement tous les acteurs du tiers-lieu Saint-Paul des Nations, le Père Alexandre, le conseil paroissial, tous ces gens qui finalement nous ont accordé leur confiance pour construire ce beau projet. Et c'est vrai qu'on, voilà, j'ai conscience de tous ces efforts qui ont été faits et de cette chance.
Et alors vous-même, Angélique, au niveau de la production de Cosmétange, où en êtes-vous? Comment ça marche?
On a la chance, ça y est, d'être à l'Office du Tourisme.
Oui.
Donc, les produits sont proposés en vente à l'Office du Tourisme pour les savons, les quatre savons de la gamme à base d'eau thermale d'Enghien-les-Bains. Il y a également un shampoing au beurre de karité et à l'eau thermale qui est disponible sur notre site internet et qui sera bientôt prochainement dans, on va voir comment partent les ventes, mais peut-être l'Office du Tourisme le présentera aussi à la vente.
Et est-ce le shampoing au beurre de karité c'est parce que vous aviez un projet avec Nadine Abondo?
Alors non, ce sera
pas,
il y aura un autre shampoing au beurre de cacao. Donc effectivement, on va lancer aussi une campagne de financement participatif à partir de la plateforme Ulule pour nous aider à payer le toxicologue. Donc c'est un budget assez conséquent pour pouvoir mettre les produits après sur un espace de vente. Ça représente un budget entre 9 à 12 000 euros. Pour certifier la gamme à base de beurre de cacao, le beurre de cacao qui viendra du Cameroun par justement l'entreprise Févier d'Or dirigée par Nadine Abondo. Et effectivement, on travaille en étroite collaboration pour proposer vraiment un produit qui soit un produit sourcé, à la fois très doux, et effectivement ça apporte une bonne protection d'hydratation, pour que ce soit au niveau du cheveu avec un shampoing au beurre de cacao ou au niveau de la peau avec du savon au beurre de cacao. Les résultats sont très prometteurs, on est très contents, on a arrêté le côté recherche et développement, là.
D'accord.
On n'a plus qu'à...
L'expérimentation est terminée, la partie expérimentale est terminée, et là vous allez passer à la production.
Alors, pas tout de suite la production, on a fait des productions pilotes pour permettre justement d'envoyer aux toxicologues les éléments requis. Donc voilà, c'est vrai que on n'a pas idée sur les entreprises de cosmétologie, de surtout artisanale, des coûts que ça peut représenter.
Mais on sait que c'est quand même très important.
Oui. Et puis on est certifié ISO 22716, donc les bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques. Justement, ça nous a été permis par rapport au site sur le tiers-lieu d'aménager une pièce complètement sur la base de la norme ISO, de façon à avoir le plus de chances possible d'obtenir cette norme. Et je voulais remercier notre personnel parce que de réussir à obtenir une norme ISO à moins d'un an d'existence avec du personnel en situation de handicap cognitif en partie, c'est juste
un vrai challenge.
C'est un vrai challenge et ils l'ont relevé, ils l'ont magnifiquement relevé, donc merci.
Ben écoutez, merci à vous. Père Debussy, c'est quelle surface ce tiers-lieu?
C'est 400 mètres carrés,
ah oui, quand
à
même.
Peu près.
Oui, oui, oui. Oui. Sur un seul étage?
Oui,
ou,
sur un seul étage, ouais, de plein pied. Donc, oui.
Et c'est ce qui n'est pas plus mal parce que voilà, il n'y aura pas de difficulté à l'intégrer.
Oui. Il y a une petite marche, mais donc il y aura un accès pour personnes à mobilité réduite. Oui, tout est conçu pour accueillir tout le monde. Ouais.
Et donc vous allez vous partager à nouveau entre ces différents lieux, puisque vous allez y passer du temps aussi dans ce tiers-lieu.
Bien sûr, hein, tout en restant aussi.
Oui.
Anguin, et à Orgemont, hein. Mais bien sûr, oui, moi je compte être très présent sur ce tiers-lieu, notamment dans tous les lieux où vont converger un petit peu toutes ces personnes et toutes ces associations, hein. Pour participer à ces lieux de rencontre,
lieux de vie,
exactement, comme une ruche.
Oui. Angélique, vous devez avoir hâte d'intégrer ce tiers-lieu.
Oui, tout à fait, parce que effectivement, ça va être aussi la possibilité d'accueillir éventuellement des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, j'espère que Cosmétange va avoir la possibilité d'accueillir plus de personnes à mesure que les ventes se feront, parce que comme vous l'avez rappelé au début, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qui signifie que nous nous engageons à ce que les bénéfices que l'entreprise pourrait effectuer soient forcément réinvestis dans son développement et l'accompagnement de personnes en situation de handicap.
Très bien, très bien. Merci de nous l'avoir rappelé. Merci Angélique Godet pour cette présentation. J'espère que ce tiers-lieu va prouver sa viabilité et puis peut-être accueillir de nouvelles entreprises ou projets.
Oui, merci.
J'imagine que c'est le but.
Oui.
Très bien. Mais écoutez, l'émission est terminée. Juste peut-être un dernier mot à ajouter, Père Debussy.
Eh bien... Moi, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux aussi qui participent, hein, comme Angélique, à ce beau projet, hein, parce que ce sont des rayons de soleil, hein, dans nos locaux aussi, hein, donc elle nous a remerciés, mais je la remercie. On est très heureux d'ouvrir nos portes à ces personnes-là.
Rencontre.
Et s'il y a d'autres personnes qui voulaient se joindre et participer au tiers-lieu, ils sont les bienvenue.
Ouais. Mais écoutez, c'est ce que nous vous souhaitons. Et d'ailleurs, si des auditrices, auditeurs souhaitaient vous rejoindre, que faut-il faire?
Alors, ils peuvent prendre contact avec moi au presbytère d'Anguin ou au presbytère de Saint-Gratien où je suis présent, ou laisser un message, hein, sur le site de la paroisse.
Très bien, très bien. Mais écoutez, j'espère que votre appel sera entendu. On va vous suivre de près. Vous nous tiendrez au courant, bien évidemment, de l'évolution. Angélique Godet, un mot aussi avant de nous quitter.
Merci, oui. Merci à vous de nous avoir donné cette possibilité de venir présenter effectivement le tiers-lieu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et j'espère leur avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus sur les activités du tiers-lieu Saint-Paul-des-Nations, parce que je veux également saluer l'ouverture qui est proposée sur ce tiers-lieu, le fait qu'il est vraiment ouvert à tous. Je trouve que c'est quelque chose d'important à souligner.
Bien sûr,
merci beaucoup.
Aujourd'hui, c'est très important. Merci infiniment. Merci d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. Et puis n'oubliez pas, vous pourrez retrouver cette émission à tout moment avec son podcast sur EDFM Radio 98.fr. Merci Francky pour la technique.
Merci Francky.
Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À 11h, c'est-à-dire dans quelques minutes, balade musicale présentée par Christophe Gravreau. Mardi prochain, à 9h30, un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, belle journée, bon week-end et surtout, prenez soin de vous. We'll be right back.